Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour chers auditeurs, eh bien c'est l'été, et avec l'été, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir un livre qui nous a marqué. On vous avait proposé l'été dernier Éric Emmanuel Schmitt, avec les aventures d'Odette Tout le monde. On vous avait proposé aussi un peu plus longtemps Le vestibule des causes perdues de Manon Moreau. Et puis, il y a encore plus de temps, Les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Eh bien, cet été, nous vous proposons de redécouvrir Dino Buzzati. Je dis redécouvrir parce que vous le connaissez certainement, mais aussi parce que Catherine nous avait lu deux nouvelles tirées du cas en octobre 2020. Ça fait un petit moment maintenant. Toutes les émissions dont je vous parle sont toujours disponibles à l'écoute ou à la réécoute sur le studio, sur le site de Studio Zef. Donc Hervé et Catherine ont pioché dans Le Cas une dizaine de nouvelles que nous vous proposons de redécouvrir jusqu'à la fin août. Un petit rappel, Dino Buzzati, il est né le 16 octobre 1906 en Vénétie, en Italie bien sûr, et il est mort en 72 à Milan, et il est entre autres l'auteur du célèbre « Désert des Tartares ». Son œuvre littéraire, nous dit Wikipédia, est marquée par l'esprit de dérision et l'expression de l'impuissance humaine face au labyrinthe d'un monde incompréhensible. Je partage personnellement tout à fait cette façon de voir. J'ajouterai que c'est souvent assez noir. Nous commençons aujourd'hui par « Le cas » et « Pauvre petit garçon ». Une nouvelle qu'il faut bien écouter jusqu'à la dernière phrase qui... Je ne vous en dis pas plus. J'ajoute que, personnellement, c'est par cette nouvelle que j'ai découvert Buzzati, grâce, il y a bien longtemps, à un prof de lycée qui nous faisait la lecture les veilles de vacances.
Quand Stefano eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer, comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. »« Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. » Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles, et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta intrigué pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200-300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stefano et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stefano, qu'est-ce que tu fais là, planté ?» lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir !» Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, dit l'enfant, et qui nous suit. « J'ai beau avoir 40 ans, dit le père, je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. » Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue-vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là ? Dis, papa !»« Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. » Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à le dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. « C'est une blague que tu me racontes, papa ?»« Non, je n'avais encore jamais vu ce monstre, mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer spasmodiquement, ces dents terribles ?» Stefano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage. Pour quelque raison que ce soit, tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas. Qui croisait lentement de long en large et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoya étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fût vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stefano resta médusé, le cœur battant la chamade. À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage pour voir si Stefano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas, et pourtant il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et arriva à l'âge d'homme, trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premières amours, la vie de Stefano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait comme un mirage à la fois funeste et fascinant, et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomber, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stefano commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation, il le savait, mais justement pour cette raison, peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre, si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien là de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Non, nous voyons absolument rien, pourquoi ?»« Ah, je sais pas, il me semblait... »« T'aurais pas vu un cas par hasard ?» ricanaient les autres en touchant du fer. « Pourquoi riez-vous ? Pourquoi touchez-vous du fer ?»« Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas, et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. » Mais Stefano ne réfléchissait pas, la menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié, avec un associé, un petit caboteur. Puis il en fut bientôt le seul patron et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer, c'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelque port après de longs mois de mer que l'impatience le poussait à repartir. Il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre, rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il l'était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promit. Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine qu'il écoutait bouche bée l'histoire du cas qui avait continué de le suivre pendant presque 50 ans. Inutilement. Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoignée. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon. « Maintenant, je vais aller à sa rencontre, » annonça-t-il. « Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. » À coups de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émergea contre la barque. « Je me suis décidé à venir à toi, » dit Stefano, « et maintenant à nous deux. » Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. « Bouh !» mugit d'une voix suppliante le cas. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager, et toi qui fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. » « Compris quoi ?» fit Stefano piqué. Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. » Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stefano la prit entre ses doigts et l'examina. C'était une perles d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. « Hélas !» dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié ! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. » « Adieu, mon pauvre homme, répondit le cat, et il plongea jamais dans les eaux noires. 2 mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. Le cat est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombeur, calourbra, calonga, calou, balou, chalungra. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt Roberto standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue.
Pauvre petit garçon. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public au bord du fleuve. Il était environ 3 heures, la saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre porté par le fleuve. On ne pouvait pas dire non plus que cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient « laitue ». Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Mais ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait des petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin, surnommé Laitue, avait un fusil tout neuf qui tirait même des petites cartouches, inoffensives bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car d'ordinaire, il le tracassait. Alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls, mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas et qu'il tente de le faire, bien vite, une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi, aujourd'hui, j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?» Les autres enfants, éparpillés dans l'allée, remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf, et puis il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit « Et vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?» Un autre dit « Oui, la laitue a apporté un fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul. La laitue, c'est un cochon, et puis son fusil, c'est de la camelote. » « Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, » dit un troisième. Et celui qui avait parlé avant, « Peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. » Madame Clara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil, et il le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures, et dans les arbres, de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable. Signe peut-être que le crépuscule approchait. « Allons, Dolphy, va jouer !» l'encourageait Madame Clara sans lever les yeux de son travail. « Mais jouer avec qui ? Mais avec les autres petits garçons, voyons ! Vous êtes tous amis, non ? Non, on n'est pas amis, disait Dolphy. Quand je vais jouer, ils se moquent de moi. « Oh, tu dis ça parce qu'ils t'appellent la laitue ? Je veux pas qu'ils m'appellent la laitue. Pourtant, moi, je trouve que c'est un joli nom. À ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. » Mais lui, obstiné, « Je veux pas qu'on m'appelle la laitue !» Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre, et ce jour-là aussi. Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt il l'avait appelé « laitue » et il s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes. Lui, au contraire, avait des vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec la meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Vess avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques, et ils n'osaient pas les répéter. Ils étaient forts, et lui si faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent. « T'as un beau fusil, » dit Max, le fils de l'ingénieur Vess. « Fais voir !» Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner. « Pas mal !» reconnut Max avec l'autorité d'un expert. Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté. « Avec ce fusil, toi aussi, tu peux faire la guerre !» dit Walter en baissant les paupières avec condescendance. « Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine !» dit un troisième. Et Dolphy les regardait émerveillés. Il ne l'avait pas encore appelé la laitue. Il commença à s'enhardir. Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l'armée du général Max qui occupait la montagne et il y avait l'armée du général Walter qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité deux talus herbeux recouverts de buissons. Et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine. Et puis les deux formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde, ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois, armés de fronde, et ils l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors, Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des deux côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons, il était clair que les ennemis, commandés par Max, avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. « Et capitaine Dolphy part immédiatement à l'attaque. Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver », ordonna Walter sur un ton confidentiel. « Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours, le plus vite que tu peux, on ne sait jamais. » Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque !» intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire. « À l'attaque, les enfants » cria-t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Un de ses projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent, même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. « Tiens, attrape, capitaine Laitue !» Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés, il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne pouvait plus servir à rien. Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre, de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. mais il y avait aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin ? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin ? Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle ? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et reconduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15 ou 20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, en donnant le bras à une superbe jeune fille, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec des grandes feuilles de papier devant lui, penchées sur le banc de l'école, penchées sur la table de la maison, penchées sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne, il serait toujours un pauvre diable vaincu par la vie. Oh, le pauvre petit ! S'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara. En secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux, reconnaissant. Il essaya de sourire et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée et sans défense. Le désir désespéré d'un peu de consolation. Un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens de changer !» fit la mère en colère et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se remit à sangloter, à cœur fendre. Son visage devint subitement laid. Un rictus sur lui plissa sa bouche. « Oh, ces enfants, quelles histoires! Ils font pour rien du tout !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons, au revoir, Madame Hitler !»
In a sedated state, wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. I found me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the wind. Shaping your overcoat, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid any eyes that still will hit. Surrender the words while the lovers leap out of the fray to the infinite. Deep in the war regime, always someone else's schemes. Show me a sign when the world falls apart. The person you seek.
C'était donc notre première émission d'été. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres nouvelles tirées du livre de Dino Buzzati, Le Cas. Alors Le Cas, bien entendu, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies et vous pouvez même l'avoir en accès libre dans toutes les bonnes bibliothèques. À la semaine prochaine.